Mesdames, Messieurs, celles et ceux qui parmi vous ont assisté régulièrement au cycle de conférences sur l'histoire reconnaîtront avec moi que le sujet qui m'a été réservé est le plus difficile à traiter. Mes collègues vous ont entretenu chacun à sa manière de chapitres d'un même livre, alors qu'il me revient à moi d'y ajouter soit une préface, soit une postface, puisque je serai amené à mettre en question certains présupposés qui leur sont théoriquement communs. Il m'a semblé dès lors qu'il serait profitable, avant de lire le texte que j'ai préparé, d'en résumer les principales idées. L'intitulé lui-même poserait problème à un linguiste. L'histoire vue d'ailleurs. Il laisse entendre qu'on vous a parlé jusqu'à maintenant de l'histoire d'un certain lieu, ici. Lequel? Est-ce le ici impliqué dans la question auquel s'opposerait un ailleurs? C'est la première question qui mériterait d'être posée. Et il faudrait à ce propos rendre hommage à ceux qui ont élaboré le programme de l'Université de tous les savoirs d'y avoir inclus un tel sujet. C'est là le signe incontestable d'une nouvelle conscience. Il y a 20 ans, y aurait-on seulement pensé? L'ailleurs aurait été considéré comme inclus dans l'ici. Jetons un coup d'œil au programme scolaire. La partie essentielle de la connaissance historique, celle qui forme la conscience culturelle civique de la communauté, française en l'occurrence, est celle du domaine impérial, qu'on a longtemps nommé romain-germanique, élargi plus tard aux Slaves, qui a été divisée à l'époque moderne en monarchie centralisée, puis en État-nation, et qui est en voie de réunification sous nos yeux au sein de l'Union européenne. Et ce qui n'y appartient pas fait l'objet d'études précisément ailleurs, dans des spécialités. L'archéologie pour l'Orient ancien, l'histoire coloniale pour les peuples autochtones d'Amérique, d'Afrique et des Indes, l'orientalisme pour l'Orient moderne et contemporain. Il ne me revient pas de porter un jugement sur ce type d'organisation des connaissances. Je pense néanmoins que toute tentative de le changer en profondeur déclenchera une crise de conscience majeure dans chacun des pays où l'étude de l'histoire est intimement liée à l'éducation civique. Mais je peux légitimement, dans le cadre de l'invitation qui m'est faite, poser la question suivante. Dans quelle mesure l'idée d'histoire qui accompagne une telle organisation du savoir peut être dite universelle? Nous parlons bien entendu de l'idée d'histoire, non de l'histoire elle-même, d'épistémologie, non de méthodologie ou d'historiographie. Et je vous prie d'excuser le langage abstrait qui sera utilisé dans beaucoup de développements qui vont suivre. Abstraction qui sera, je pense, compensée dans la période dévolue aux questions. Vous le constatez, j'ai été bien obligé d'interpréter le sujet qui m'a été proposé, d'en limiter les contours pour pouvoir le traiter. En résumé, je toucherai, mais pas nécessairement dans cet ordre, les points suivants. Que veut dire ailleurs? Opposé à un ici implicite. Ces deux concepts, ici et ailleurs, sont-ils uniques ou multiples? Y a-t-il opposition entre les deux? Et si oui, est-elle appelée à perdurer, sinon à s'approfondir, ou bien va-t-elle progressivement s'effacer? Ayant dit cela, je vais maintenant commencer par faire quelques remarques générales que vous avez peut-être déjà entendues dans cette enceinte, mais qui me permettront de vous présenter le sujet tel que je l'entends le traiter ce soir. Si je vous pose la question, quand est née la science? Vous me répondrez au XVIIe siècle, ou au XIIIe, ou du temps des Grecs, selon le degré de votre familiarité avec le sujet. Mais vous me répondrez tout de même, et sans hésiter. Tandis que si je vous demande quand est née l'histoire, il y a de fortes chances pour que vous répliquiez qu'entendez-vous par là. L'histoire, l'histoire écrite, l'histoire scientifique. Notre propos aujourd'hui est d'élucider cette différence de réaction entre les deux concepts. Celui de science, qui nous semble clairement défini, et celui d'histoire qui paraît et sans doute est fondamentalement équivoque, et ceci, quelle que soit la langue utilisée ou la culture considérée. Pour moi, il ne s'agit pas tant de vous entretenir de l'histoire vue d'ailleurs, sous-entendu d'un point de vue non occidental, bien que cela soit en partie vrai, que vue autrement, actuellement, par tous ceux qui observent l'évolution de notre monde en constante uniformisation. Il est significatif que tout questionnement au sujet de l'histoire prend immédiatement l'allure d'une agression. En fait, dès qu'on réfléchit un instant sur le terme, en n'importe quelle langue, on se rend immédiatement compte qu'il est équivoque, fait souligner depuis longtemps, mais surtout qu'il ne prédispose à poser certaines questions au détriment d'autres. Dans les langues latines, par exemple, le mot réfère à un récit et par là même attire l'attention sur l'aspect littéraire, la technique de narration, la qualité de style. Alors qu'en arabe, le mot tarikh désigne la chronologie, le compute, la datation et dirige notre regard vers des problèmes d'administration, de justice, vers l'astrologie, vers ce que le juriste français du XVIIe siècle, Jean Bodin, appelait l'histoire mathématique. Réfléchir sur le mot, c'est déjà méditer sur la chose, si précisément l'entreprise ne rencontrait pas tant d'obstacles. On est dans la tradition d'une civilisation, d'un État, d'une ethnie, d'une classe, d'une lignée. Et par l'éducation, on adopte une mémoire qui a été formulée et reformulée au cours de plusieurs générations. Même quand on se spécialise, quand on est au courant des secrets du métier, on ne sort pas de la tradition. On devient archiviste, éducateur, défenseur des droits acquis, qu'on appelle précisément droits historiques. On acquiert des connaissances plus vastes, plus précises. On se familiarise avec des méthodes inédites, sans jamais remettre en question une certaine vision du passé, le sien et celui des autres, qui est à la base de l'esprit public. Il est vrai que chaque communauté connaît des disputes, des controverses, et l'historien prend parti pour l'un des deux camps. On a même remarqué que c'est là où la lutte est la plus âpre, la plus longue, que les études historiques font les plus grands progrès. Mais on a aussi remarqué que plus les procédures se précisent et se diversifient, plus la substance a tendance à se maintenir tout en se stylisant. Tous les livres d'historiographie commencent avec Thucydide, en soulignant que son esprit critique a été réveillé par le fait qu'il faisait le récit d'une guerre civile, opposant la démocratie athénienne à l'aristocratie incarnée par Sparte. Ce fut là, dit-on, la première occasion favorable à la naissance de l'histoire scientifique. N'avons-nous pas là la première occasion et la dernière? Le début et la fin. Quand on suit le développement de ce type d'histoire à travers la République romaine et ses factions, je pense à Tacite, Livre. La commune de Florence avec ses guelfes et ses gibelins, je pense à Guijardin. L'Europe de la Réforme avec ses protestants et ses catholiques, je pense à Pasquier. Les révolutions modernes avec leurs républicains et leurs monarchistes. Nous constatons certes une permanence, mais de quoi au juste? À chaque étape, l'histoire qui est racontée est plus riche, plus détaillé, mieux documenté, mieux mis en scène, pourrait-on dire en pensant à Michelet. Mais n'est-ce pas la même pièce? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui se maintient? Que recouvre le mot « histoire » dans l'esprit du lecteur? Dire que l'histoire est celle de la lutte des classes, est-ce une vérité qu'on appréhende directement ou bien qu'on déduit du fait qu'à chaque étape, l'historien a recours au même modèle dramatique, même s'il le fait à la suite et au nom d'acteurs chaque fois nouveaux? Depuis 2 siècles qu'on écrit sur la Révolution française, on n'a pas vraiment répondu à cette question. Ce que nous avons présenté ici comme un exemple parmi d'autres est en réalité l'axe principal de la pensée historique en Occident. Prononcer le mot histoire et les souvenirs scolaires se bousculent à votre esprit et ce sont ceux à quoi nous venons de faire allusion. Tout dernièrement, à l'occasion de la candidature de la Turquie à l'Union européenne, on a bien vu à l'œuvre ce concept bien particulier qui n'est ni celui des austériens professionnels, ni celui de l'homme de la rue, mais celui de la conscience collective que nous appellerons désormais concept traditionnel en Occident, bien entendu, et dont nous proposons de montrer qu'il est restrictif dans l'absolu, à l'égard du reste du monde, mais aussi à l'égard de la réalité européenne elle-même. Comment le caractériser? Contentons-nous de 4 traits distinctifs. Premier, l'histoire est celle de l'homme qui agit, qui conçoit et prévoit, qui parle et écrit. D'où la prééminence dans ce type d'historiographie de la politique, de la stratégie, de la parole raisonnée. L'historien est perçu comme le secrétaire du héros, qui est par principe un stratège et un orateur. Tout ce qui est passif, inarticulé, naturel, est décrété ahistorique. Et immédiatement se présente à notre esprit une question qui nous hantera tout au long de notre discussion. Ce qui a été négligé par l'histoire traditionnelle, consciemment, inconsciemment, toute la difficulté est là, mérite-t-elle d'être récupérée par des moyens détournés et élevés au niveau de l'historique? Quand on dit par exemple les historiens classiques ne se sont pas occupés d'économie, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était l'économie ou bien parce qu'ils considéraient que tout ce qui est matériel, ce qui a trait à la vie de tous les jours, n'est pas justement historique, n'est pas digne d'être consigné dans les annales de l'histoire? Et alors est remise en cause la validité de ce qu'on a appelé à chaque étape du progrès méthodologique la nouvelle histoire. Nouvelles connaissances, oui. Nouveaux domaines d'investigation, sans doute. Nouvelle histoire, voire. Les philosophes se sont révoltés contre la domination du sujet et ont déclaré non scientifique ce qui n'est pas processus indépendant de la conscience. Ils ont soit refusé de reconnaître la prééminence de l'histoire sur les autres sciences humaines, exemple Claude Lévi-Strauss, soit remis l'histoire elle-même sur ses pieds, exemple Althusser. Force est de constater aujourd'hui que l'entreprise a échoué, non seulement auprès des historiens de métier, mais aussi auprès du lecteur en général. Plus l'historien se détourne du sujet, parlant d'objets de moins en moins familiers, plus le lecteur se détourne de lui au profit du journaliste, du diariste, du romancier. Et si le concept traditionnel est sorti indemne du procès qui lui a été fait depuis tant d'années, c'est qu'il est le socle de la conscience commune. Deuxième point, l'histoire est une continuité. Je passe là-dessus simplement pour dire que ce point est tellement accepté qu'on a pu dire que toute histoire est biographique. Même lorsqu'on écrit l'histoire, par exemple, d'une banque, eh bien, la banque devient comme un personnage qui a un début, un épanouissement et une fin. Et donc, toute histoire, même quand on écrit l'histoire du cheval, par exemple, ou l'histoire du climat, eh bien, on le fait sous une forme biographique. Sinon, le livre serait illisible. Troisième point, en combinant unité et continuité, nous sommes amenés à conclure que l'histoire qui mérite d'être racontée se déroule à un niveau bien déterminé, qui n'est pas nécessairement celui de la conscience, mais qui est, en toute hypothèse, humain, et par rapport auquel on distingue le supra et l'infra-humain, qui appartiennent, eux, à d'autres formes de connaissances. La mythologie n'est pas plus une histoire des dieux que l'histoire naturelle n'est celle des animaux. Pas d'histoire sans représentation, c'est-à-dire sans parti pris anthropomorphiste. Quatrième point, par là, l'histoire impose à celui qui la pratique sa propre temporalité, qui est en réalité celle de l'expérience quotidienne. On peut toujours décaler le point zéro d'un calendrier, Olympiade chez les Grecs, fondation de Rome, vie de Jésus ou du prophète Mahomet, etc. On peut croire vraiment ou à moitié que l'histoire se terminera un jour, mais entre ces deux dates nécessairement relatives, il n'y a pas d'histoire qui ne soit chronologique soutenue par l'évidence. Ainsi caractérisée, l'histoire semble être avant tout une forme rhétorique. Ce n'est pas un hasard si depuis une vingtaine d'années, on a redécouvert d'anciennes analyses, à commencer par celle d'Aristote, et ceux qui parlent aujourd'hui d'épistémologie sont en général de formation classique, par exemple en France, un homme comme Paul Venn, alors qu'il y a, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était surtout des médiévistes, exemple Marc Bloch, et avant eux, des spécialistes de la période moderne, exemple Seniobos. Et dans cette perspective, commune à toutes les cultures classiques, mais que l'Europe qu'il a hautement illustrée feint de croire qu'elle lui est spécifique, l'histoire est une forme d'appréhension qui s'applique tout naturellement au passé, mais qui peut aisément s'annexer le présent, exemple les livres de politique fiction, et le futur, exemple les livres de science-fiction, qui sont très souvent des livres historiques inversés. C'est-à-dire présenter tout sous forme d'advenu. À mesure que l'histoire est assurée de ses procédures, elle devient de plus en plus impérialiste, en deux sens différents. Nous connaissons ses démêlés avec les autres disciplines qu'elle se plaît à appeler auxiliaires. Elle s'immisce dans chacune d'elles. Elle a fait éclater de l'intérieur, par exemple la linguistique ou l'économie. On l'a même vu s'attaquer à la science physique pour y en traduire relativisme et anarchisme avec sa théorie des paradigmes. Ce n'est pas cet impérialisme interne qui nous intéresse ici, mais l'autre, externe, celui qu'elle, la tradition historique occidentale, classique, dirige contre d'autres traditions pour en faire de simples objets de sa propre investigation. Un impérialisme qui manifeste son inconscience que ces traditions ont pu suivre d'autres voies, ou la même que la sienne, avec plus de constance et de persévérance. Certes, la tradition occidentale s'est édifiée par annexions successives. Est-ce l'Europe occidentale qui s'est annexée la Grèce antique, ou le contraire? C'est là un autre problème épineux. Mais l'histoire occidentale moderne commence bien par une annexion spectaculaire, celle de l'Égypte ancienne. Il suffit de visiter l'une des nombreuses expositions toujours populaires dédiées à la civilisation pharaonique pour voir à quel point celle-ci semble maintenant faire partie de la conscience européenne, bien plus clairement que de celle de l'Orient contemporain. C'est le même mouvement d'annexion qui a abouti à l'imposant édifice de l'orientalisme. Il ne sert à rien de nier les liens de ce dernier avec la colonisation, car cela ne préjuge en rien de sa valeur scientifique et de son rôle historique. Et la meilleure preuve que ce lien existe et que l'orientalisme a perdu de son innocence, que la théorie de l'histoire qui lui servait de fondement a commencé à être discutée à mesure que la décolonisation progressait. Notons que ce que nous appelons la tradition historique occidentale n'est pas une. En vérité, elle est édifiée chaque fois à l'intérieur d'un pays déterminé. Il y a par exemple un Machiavel italien, un autre français, un autre encore allemand. Dans chaque histoire nationale, le même concept est à l'œuvre, la même forme d'expression est mise à contribution, mais le résultat n'est jamais tout à fait le même. Il n'y a pas de Michelet anglais, comme il n'y a pas de Macaulay français. C'est en Allemagne qu'est né le concept d'histoire universelle, qui fut d'ailleurs très vite critiqué ailleurs. Et quand von Ranke, par exemple, écrivit une histoire des peuples germaniques et latins, son ouvrage ne fut pas bien accueilli, ni en Angleterre, ni en France. Mais si la notion d'histoire élaborée à partir des mêmes éléments n'a pas pu être généralisée aisément au niveau de la seule Europe occidentale, ne parlons pas de celle du Sud et de l'Est, comment pouvait-on espérer l'appliquer telle qu'elle à des peuples plus éloignés encore? On voit bien qu'une telle tentative n'aurait jamais pu être envisagée en dehors de la situation de suprématie créée par la colonisation. Jean Bodin pouvait encore reconnaître que les Arabes avaient initié la géo-histoire. Voltaire pouvait encore dire qu'avec un meilleur gouvernement, la Perse était capable de retrouver sa splendeur d'antan. Mais pour Marx, aussi bien que pour Tocqueville, l'Orient a été définitivement condamné par l'histoire. Chaque peuple colonisé était voué à une mort inéluctable par l'historien occidental, qui pouvait en toute bonne conscience s'annexer son passé à l'image de ce qu'il avait déjà fait pour les peuples de l'Antiquité. C'est dans le cadre de l'UNESCO, institution internationale ouverte aux peuples non européens, que le concept d'histoire hérité de la tradition occidentale a montré ses limites. On l'a bien vu quand on a confié à d'éminents spécialistes le soin d'écrire une histoire de l'humanité. L'entreprise a immédiatement rencontré d'insurmontables obstacles et il a fallu publier tel quel le résultat d'années d'efforts qui étaient loin d'être satisfaisants. Le livre était en fait illisible. Il ne s'y trouvait pas une seule page qui témoignât que l'humanité avait eu une seule et même histoire. Si nous adoptons sans réserve le concept d'histoire décrit plus haut, si nous appliquons aveuglément la méthode qui en découle, de qui, de quoi parlons-nous quand nous écrivons l'histoire des grandes découvertes, de la conquête de l'Amérique, de l'ouverture de la Chine, du partage de l'Afrique, etc. Comparons ce qu'on a avancé depuis un siècle sur le Japon d'un côté, sur la Turquie ou l'Iran de l'autre. On constate ici et maintenant les succès économiques et technologiques du premier, c'est-à-dire du Japon. Et tout naturellement, on recherche ce qui, dans son passé, rappelle ce qu'on sait de l'Europe pré-industrielle. Féodalisme, bureaucratie, fiscalité, institutions religieuses, écoles de pensée, éthique sociale, etc. En revanche, on observe les difficultés des deux pays musulmans à s'adapter à la modernité et on ferme les yeux sur tout ce qui ne fait pas obstacle à ce processus. N'y a-t-il pas là une sorte de cercle méthodologique? Une des premières victimes de la décolonisation a été ce concept d'histoire que nous venons de définir, qui a tellement servi l'impérialisme tout en s'en servant pour se donner bonne conscience. Relisons certaines pages de Montesquieu sur l'Orient, de Macaulay sur l'Inde et même sur l'Irlande, de Burckhardt sur l'islam, d'Engels sur les Slaves, pour être convaincu que la décolonisation de l'histoire est une entreprise toujours en progrès. Je veux dire par là que même cette vision de l'histoire classique était injuste même par rapport à des peuples européens. Je dis ce que Engels a pu écrire sur les Slaves, les peuples slaves en général, ou ce que Macaulay a écrit sur l'Irlande, et qui est pire, ce qu'il a pu écrire sur l'Inde, par exemple, où il traitait les Irlandais comme des sauvages absolus. Donc, la tentative de décoloniser l'histoire a bien été antérieure à la décolonisation telle que nous la connaissons. Et elle est encore en progrès. Et elle ne s'arrêtera certainement jamais. C'est la volonté de l'Afrique subsaharienne d'avoir une histoire qui soit vraiment la sienne qui a posé de redoutables problèmes aux épistémologues. Qu'est-ce qu'au juste la préhistoire? Puisqu'on a dit qu'on ne pouvait connaître de l'Afrique subsaharienne que qu'on ne pouvait la connaître que ce qui peut être connu par la préhistoire. Est-elle une notion chronologique? Est-ce une structure atemporelle? Lorsqu'on écrit l'histoire d'une société avec seulement les techniques de l'archéologie, n'en déforme-t-on pas nécessairement la perspective? Il ne suffit pas de répliquer, nous manquons de documents. Nous ne pouvons aller au-delà. Ceci est la réponse de l'assistant technique. Ce dont il s'agit, c'est de ne pas appeler histoire ce qui ne l'est pas. C'est de s'entêter à vouloir obtenir une histoire selon ses propres prescriptions. Peut-on croire un instant qu'une société puisse se convaincre qu'elle n'a pas d'histoire ou que la sienne est froide, selon la formule de Lévi-Strauss, simplement parce qu'elle n'offre pas des archives d'un type déterminé? L'Afrique subsaharienne a posé avec force un autre problème, celui de la valeur documentaire du témoignage oral, ou plus précisément du poids de l'histoire d'un groupe humain confié à la seule mémoire. Quelle est la différence entre une documentation mémorisée, organisée dans le cadre d'une profession bien structurée, et une autre confiée à l'écrit, sous la garde d'une profession d'archiviste, somme toute comparable à la première? C'est cette équivalence fonctionnelle qu'a voulu affirmer le regretté cheikh Mpateba lorsqu'il a prononcé sa fameuse sentence « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». L'histoire en tant que forme rhétorique change-t-elle la nature du récit oral lorsqu'elle en fait un pré-document, c'est-à-dire qui doit attendre d'être écrit pour être pleinement valable? La même réflexion a permis de détecter toute une partie de l'activité humaine que l'histoire traditionnelle échoue à exprimer adéquatement, celle des exclus, des sans-voix, ceux qui sont sans hors normes, et qui, au fond, ceux qui ne savent pas écrire, qui n'ont pas encore découvert l'écriture. Ce qu'on appelle l'histoire immédiate, qui est conçue à partir du document écrit, n'est pas toujours synonyme de l'histoire orale portant sur le même sujet. Ce sont deux choses totalement différentes. De l'Afrique subsaharienne, passons à l'Amérique latine, amérindienne et au continent indien. Les historiens de ces deux continents ne travaillent plus dans des sociétés où l'écrit est relativement nouveau, mais au sein d'immenses mégapoles qui échappent au pouvoir central et qui trouvent néanmoins le moyen de s'auto-organiser. On fait face ici à de nouvelles formes de sociabilité qu'aucune discipline de recherche historique particulière n'arrive à cerner. Ces chercheurs parlent d'histoires alternatives qui combinent les exigences indiquées précédemment, immédiateté, exclusion, oralité. Une histoire qui s'édifie aujourd'hui à côté de l'autre, qui ne s'exprime pas dans les mêmes formes et ne peut être dès lors être appréhendée selon les mêmes modèles. On voit bien que sans la décolonisation, toutes ces questions n'auraient pas pu être posées avec la même netteté et la même rigueur, si elles devaient l'être un jour. L'historien occidental ou son disciple oriental aurait faim de croire qu'il s'agit de nouveaux domaines qui s'ouvraient à l'investigation et qu'il suffit d'un peu d'imagination méthodologique pour que les règles classiques s'appliquent à la réalité nouvelle. Après l'Afrique subsaharienne, après l'Inde et l'Amérique, venons-en à l'islam, puisque c'est lui qui pose à la conception traditionnelle de l'histoire le défi le plus redoutable. J'imagine que la Chine classique aurait son mot à dire, mais où pouvons-nous l'écouter? Dans les universités américaines, à Taïwan, sous le langage de la Chine officielle? Contentons-nous donc de l'islam, puisque c'est sa voix qu'on entend, amplifiée par les moyens de communication modernes? Le concept d'histoire est central en islam et il est à la fois proche et différent de celui de l'Occident. Il est plus limité parce qu'il est antérieur à l'archéologie, et plus profond dans la mesure où il exige le sens. Une histoire qui ne donne pas de sens n'est pas une histoire selon la vision classique de l'islam. Si l'islam pose à l'Occident un redoutable problème, l'inverse étant tout aussi vrai, c'est qu'il y a eu colonisation et décolonisation dans les deux sens, et que dans les deux cas, ni l'une ni l'autre n'y prit le visage qu'il eut ailleurs. Une des difficultés qu'a l'Europe occidentale de comprendre ce qui se passe en Europe orientale et balkanique, c'est que l'Europe orientale continue à vivre sous l'idée de la colonisation islamique turque, qui a duré jusqu'à la fin du siècle dernier. Alors que pour l'Europe occidentale, s'il y a eu colonisation par l'islam d'une partie de l'Europe, c'est dans un temps pratiquement oublié. Donc il y a eu colonisation et décolonisation dans les deux sens, et que dans les deux cas, ni l'une ni l'autre, c'est-à-dire la colonisation et la décolonisation, n'y prit le visage qu'il eut ailleurs, en Amérique, en Afrique, ou dans certaines parties de l'Asie, en laissant la Chine de côté. Il ne s'agit ni d'effacer artificiellement cette différence, ni de l'exalter et parler d'une guerre de civilisation. Il y a différence, opposition, débat, conflit, mais il n'y a pas, il ne saurait y avoir de guerre dans la logique même du concept d'histoire que chacun des deux protagonistes a hérité et défend aujourd'hui. Le conflit latent entre les deux est à la fois intérieur et extérieur à chacun. C'est en fait un conflit entre le sacré et le profane, entre l'homme et la nature, et qui est un conflit intériorisé par chacun des deux protagonistes. Et c'est ce qui permet de voir l'histoire autrement et donc de l'enrichir. La faiblesse congénitale de l'orientalisme classique est qu'il n'a pas pu voir l'islam, malgré la bonne volonté de beaucoup de ses représentants, de l'intérieur. Les Occidentaux ont souvent reproché à l'Orient leur manque d'intérêt pour autrui, de n'avoir pas fondé une science de l'autre, un occidentalisme qui aurait été le pendant de l'orientalisme, et ont voulu voir dans cette carence une marque indélébile d'infériorité. C'est l'idée fondamentale de Jacob Burckhardt. Quoi qu'on puisse penser de cette critique, on peut néanmoins soutenir sans tomber dans le paradoxe qu'elle n'est que l'ultime conséquence du préjugé orientaliste. L'apparition d'un occidentalisme tel que l'auraient souhaité les Occidentaux aurait justifié a posteriori l'entreprise orientaliste et lui aurait même reconnu définitivement la primauté. Dans l'état actuel des choses, les deux sciences seraient des sous-produits de l'historicisme occidental. Le silence apparent de l'islam met visiblement mal à l'aise l'Occident parce qu'il semble relativiser cet exploit. C'est ce que Burckhardt appelle l'orgueil de l'islam. La tendance de chacun, Occident et Islam, est donc de rester fidèle à sa tradition. L'islam s'étudie selon ses procédures, constamment rappelées, réaffirmées, et l'Occident fait de même. Dans ces conditions, chacun perpétue son être. Une conscience plus claire de soi signifie une plus grande pureté. L'historicisme est alors la voie royale à l'intégrisme. Les deux ne forment en réalité qu'un seul concept. Ceci est évident dans le cas de l'islam, puisqu'il se fait une gloire de résister seul à l'usure du temps. C'est aussi ce qui lui est reproché sous le terme mal défini de fanatisme. Mais il n'est pas douteux que la situation n'est guère différente en Occident, malgré l'acceptation apparemment générale du réformisme doctrinal et la succession rapide d'écoles historiques antagonistes. C'est ce que souligne par exemple Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dit « La différence fondamentale entre l'Occident et l'Islam, c'est qu'en Occident, on accepte l'idée de réforme continuelle, que les choses changent, y compris la foi. Alors que l'islam, dès le début, refuse l'idée de réforme. C'est ce que dit Paul Ricoeur. Mais l'expérience quotidienne montre que malgré l'acceptation apparemment générale du réformisme doctrinal et la succession rapide de modes d'école historique antagonistes, on découvre de plus en plus d'intégrisme dans la pensée occidentale, là où on l'a soupçonné le moins, dans l'historiographie de la Révolution française. La Révolution française est sacralisée. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Dans la politique linguistique de chaque État. Dans la philosophie des droits de l'homme. À propos de la politique extérieure de l'Union européenne, etc. La théorie de l'histoire qui est à court en Occident, malgré les variations locales, n'est que celle d'une tradition, celle que nous avons définie au début. L'islam, qui non seulement possède sa propre théorie de la tradition, mais encore prétend que la sienne est la théorie générale de toute tradition, agit comme un miroir qui renvoie à l'Occident l'image de sa particularité et non celle de sa singularité. Et ceci explique en partie l'antipathie que l'homme occidental a naturellement vis-à-vis de l'islam. Et la sympathie qu'il montre, par exemple, pour le bouddhisme, ou encore le soufisme, qui est un islam non orthodoxe, ayant donc une autre théorie de la tradition. Ayant dit cela, on pourra répondre, mais peut-on échapper au solipsisme, que chacun reste à l'intérieur de sa propre conception d'histoire ? Sortir de sa tradition sans automatiquement embrasser celle des autres. Peut-on étudier valablement toutes les traditions en se plaçant à l'extérieur de chacune d'elles? Comment être sûr qu'on est vraiment hors de la sienne? Au niveau théorique, il semble bien que le relativisme guette l'historien où qu'il se tourne. En tout cas, dans la visée que je viens de décrire ici. Depuis 3 siècles maintenant, tirant la leçon des tragédies engendrées par les guerres de religion, les luttes de partis, la colonisation, les affrontements ethniques, on essaye de dissocier justice et tolérance. Tant celle-ci semble être teintée de relativisme et peut-être de scepticisme. La notion de tolérance est maintenant de plus en plus critiquée parce qu'elle semble propager l'idée d'un relativisme des valeurs. Et on essaye de lui opposer une certaine conception presque métaphysique de la justice. Tout l'édifice de l'histoire scientifique, la théorie de l'action humaine réduite à ses déterminants matériels, théorie qui s'est vue au cours des générations, confortée par les progrès de l'archéologie, de la biologie, de la psychiatrie, du structuralisme et sa phobie du sujet, n'a été en définitive qu'une tentative héroïque de se soustraire au relativisme. C'était aussi une manière de dépasser le concept d'histoire courant en Occident. Et c'est pour cette raison que la tentative a trouvé et trouve sans doute encore de larges échos dans les autres cultures. Cependant, nous avons souligné qu'elle a été décrétée à tort ou à raison hors sujet. Vous avez certainement constaté qu'on revient de plus en plus à l'idée ancienne d'histoire et que tout ce qu'on a considéré comme étant une science, histoire scientifique, histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire matérielle, etc., est de plus en plus mise maintenant en question et décrétée hors sujet. C'est intéressant, mais ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas essentiel. L'histoire essentielle qui intéresse l'homme et l'histoire de l'homme. Ça, on l'a depuis à peu près 20 ans. On l'a décrété, à tort ou à raison, hors sujet. Et on ne peut pas ne pas mettre en relation ce retour à l'idée traditionnelle d'histoire, cette remise entre parenthèses de tout ce qu'on a appelé depuis un siècle l'histoire scientifique, avec la fin des empires coloniaux. On ne peut pas ne pas mettre en relation les deux. L'Occident, après l'échec de son impérialisme politique, a retrouvé sa tradition. Nous le constatons tous les jours. Et fait table rase de tout ce qui a été présenté comme histoire humaine, alors qu'elle n'était que connaissance de la nature, description d'objets, étude du sang et des nerfs. L'Occident, rejeté à l'extérieur, a finalement rejeté de lui-même ce qui visait à le dépasser. Se retrouvant tel qu'il s'est toujours voulu, il est allé à la rencontre d'autres intégristes. J'arrive finalement à la conclusion. J'ai toujours soutenu que l'analyse des idées pures, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, aboutit presque mécaniquement à une philosophie du conflit, d'opposition et de conflit. La seule voie de sortir des contradictions est de se tourner vers ce que chacun de nous fait et non se contenter d'écouter ce qu'il dit ou écrit. Et en général, on se contente d'écouter ce que autrui dit, mais on ne voit pas ce qu'il fait en fait. La seule théorie de l'histoire qui puisse nous mettre d'accord est celle qui a pour objet d'étude l'action collective d'aujourd'hui, l'action légitime et responsable. La colonisation a été une entreprise d'universalisation au niveau planétaire, fondée sur une idée traditionnelle restrictive de l'histoire. Elle a été arrêtée par un mouvement de résistance, lui aussi planétaire, et lui aussi fondé sur une idée qui, bien que différente, n'était pas moins restrictive. Et cependant, le nationalisme culturel a continué à sa manière ce mouvement d'universalisation. Les grandes révolutions de l'Est, qui ont semblé devoir changer le cours des événements, l'ont finalement plutôt accéléré. Toutefois, à ce mouvement, c'est pendant un autre qui va en sens contraire. On généralise l'enseignement pour unifier et uniformiser. Et sans le vouloir, on fait renaître des langues, des cultures, des traditions qu'on croyait définitivement oubliées. Ce fut déjà la mère expérience de la colonisation, et c'est celle des nouveaux États nés de la décolonisation. Une société semble être unie tant qu'elle est passive, somnolente, ou victorieuse, ou prospère. Dès qu'elle connaît un début d'activité, ou qu'elle subit un échec, ou qu'elle est en crise, la voilà qui se disloque selon des lignes de fracture depuis longtemps invisibles pour la plupart des habitants. Et tout cela se fait au nom de l'histoire et contre elle, hier au temps de la colonisation et aujourd'hui où la décolonisation continue. La logique de ce fait, de ce qui a été mis en branle, quand, agira sans doute encore longtemps. On découvre que le concept d'histoire au nom duquel on a agi, comme conquérant ou comme nationaliste, comme défenseur de l'État central ou comme avocat de sa communauté, est étroit, limité, rétréci à la fois chez les premiers arrivés, s'il y en a, et chez les tard venus. Si nous nous dirigeons aujourd'hui vers un certain historicisme, sans lequel on ne saurait concevoir une Cour internationale de justice, un droit général d'intervention, une organisation mondiale du commerce, il serait bien différent de celui qui avait cours au siècle dernier et que l'Europe considérait comme une denrée qui lui était spécifique et qu'elle devait exporter. Il s'agira d'un historicisme d'action, et non de préconception. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire n'est pas une comme une donnée, mais il est une comme visée. Si on regarde ce que les gens font partout, ce qu'ils exigent, ce qu'ils espèrent, ce dont ils rêvent, bien on constate qu'ils vont vers une certaine unification. Même s'ils disent vouloir le contraire. C'est ce que j'appelle un historicisme d'action et non pas de préconception, extrait du présent et non déduit d'un héritage taillé sur mesure. Un historicisme instrumental intégrant une grande part de relativisme. Universalisation et particularisation, mondialisation et spécialisation vont main dans la main. La raison en est sans doute que nous sommes tous maintenant convaincus de nos propres limites. La science, et je reviens à cette opposition entre science et histoire, la science est théoriquement ouverture sur l'infini, pas l'histoire. L'individu est mortel, les cultures et les civilisations évoluent et donc meurent d'une certaine manière. L'humanité dans son ensemble est loin d'être assurée de son avenir. L'histoire appartient à tous depuis que le ciel ne protège plus personne en particulier. Merci.